Suite du chapitre 7.
2 minutes plus tard, une pétarade de mobilettes se mêle au crépitement du petit bois. Le docteur Farge allonge délicatement une bûche de chêne sur les chenets, dispose la grille par feu, puis il passe dans la cuisine. J'entends le frigo qui s'ouvre, les verres qui tintent, les cacahuètes qui tombent dans une assiette. Un grand chien noir vient sans bruit poser une patte sur mon pied, me dévisage. Je lui dis bonjour, il ne bouge pas. J'avance une main pour le caresser. Il s'éloigne, va se coucher devant le piano, sans cesser de m'observer. « Il s'appelle Troy, c'est un bas rouge, » dit le médecin en revenant avec un plateau. « Il a l'air gentil. Il n'aboie jamais, il attaque et il tue. Ce n'est pas mon genre, mais c'est un cadeau de Bernadette, le dernier d'une portée. Je n'allais pas refuser. Les cambrioleurs ne viennent plus depuis. Le facteur non plus. » Il incline la bouteille, l'ouvre en la faisant tourner autour du bouchon. Avec une précision maniaque, il nous sert en dosant la mousse, aligne les niveaux, puis il s'assied dans le canapé en face de moi, se laisse absorber par les coussins de velours, vide son verre et se penche en avant, les coudes sur les genoux. « Bien. Maintenant que nous sommes en dehors de l'hôpital, je vais pouvoir vous dire à titre privé tout ce que je vous ai tu. » Si vous le souhaitez, bien entendu. Je l'y invite d'un mouvement vague. Avez-vous évolué depuis ce matin? Je veux dire, pensez-vous toujours réellement que vous êtes Martin Harris? Oui. Et ça n'a rien à voir avec le glutamate. Avez-vous de nouvelles preuves à l'appui de cette conviction? J'en attends. Un avion survole la maison à basse altitude, dans le sifflement aigu des réacteurs. Lèvres pincées, il laisse le silence revenir, puis regarde sa montre. Il est 15h30 chez vous. Si vous voulez appeler quelqu'un, ne vous gênez pas. J'ai chargé un détective de contacter mon entourage. Il entérine mon choix en écartant les mains. Je pensais qu'il allait insister. Les visages, les noms, les numéros défilent dans ma tête. Mon assistant Rodney, le doyen de mon département, Mrs. Follett qui garde la maison, les Brown qui veulent toujours nous inviter à dîner. Je n'ai pas envie de téléphoner à mes relations. Sans que je puisse démêler ce qui relève de la gêne ou de l'appréhension. Bien sûr, je répugne à m'abaisser en sollicitant le témoignage de l'arriviste qui lorgne mon salaire, du vieux raisonneur qui cherche à me dissuader d'impliquer l'université dans mes attaques contre les OGM, de la caractérielle qui se croit chez elle parce qu'elle est la seule à savoir comment fonctionne l'alarme, ou des voisins que je supplie de ne pas tailler constamment leur catalpa centenaire. Mais il y a autre chose dans ma réticence, la crainte d'essuyer une réaction comparable à celle de Lise. C'est impossible, je le sais bien, mais c'est plus fort que moi. Et de toute façon, au téléphone, on peut prendre ma voix pour celle de l'imposteur. S'il m'authentifie, cela ne prouvera rien. Autant laisser les enquêteurs leur montrer ma photo. Un autre avion passe au-dessus de nous, plus bruyant que le premier. Jérôme Farge allonge brusquement la main vers une télécommande, la pointe en direction de l'escalier. Une voix d'opéra emplit la pièce, vocalise sur fond de percussion. Il l'interrompt au bout d'une minute. « Excusez-moi, » dit-il. « En juillet, ils ont ouvert un couloir juste au-dessus. Depuis, je passe mes soirées à compter les Airbus, à faire gueuler Wagner et Pavarotti pour essayer de les oublier. Chopin, c'est fini. Il ne fait pas le poids contre les réacteurs. » C'est la deuxième fois que je sens percer l'être humain sous le médecin. Le plaisir gamin de piloter un bolide de jeune homme et cette nostalgie butée qui condamne un piano. « Vous jouez ?» demande-t-il. Il a suivi mon regard posé sur le playel. Je réponds d'une moue qui peut exprimer aussi bien l'incompétence que la modestie. Je ne me revois pas devant un clavier. Pourtant, un picotement dans mes veines, une vague impatience dans les doigts m'attire vers les touches. « Allez-y, » m'invite-t-il. C'est ma femme qui jouait, mais je continue à le faire accorder. Je m'assieds sur le tabouret, intrigué par cet appel intérieur qui ne correspond ni à un souvenir, ni à un manque. Je retrousse la nappe. Je pose ma main valide au milieu du clavier. J'attends. Je guette un réflexe, un automatisme, et finis par faire le vide en laissant courir mes doigts. Aux premiers accords de la mélodie, je referme le couvercle.
« Vous n'avez pas oublié, » déclare-t-il admiratif.
« Si. » Je regagne ma place au coin du feu. Il me demande si c'est du Gershwin. Je n'en sais rien. Je réponds que je suis rouillé pour avoir la paix. Il n'insiste pas. Le regard perdu au milieu des flammes, je fouille en vain la maison de Greenwich, le pavillon où je suis né, l'appartement de la cousine à Brooklyn, le foyer des étudiants à Yale. Aucune trace de piano, nulle part. Aucune image de moi apprenant le solfège ou faisant des gammes. Ce n'est pas dans mon histoire. Ce n'est pas un souvenir à moi. Et pourtant, je sais jouer. Il remplit nos verres, me tend l'assiette de cacahuètes, la repose sur ses genoux. Je ne sais pas s'il aperçut mon trouble.
Vous croyez à la réincarnation, docteur ?
C'est-à-dire ? Le concept de vie antérieure ? L'idée que tous les bébés qui viennent au monde sont des cadavres recyclés ? La théorie selon laquelle, si on s'est mal conduit, on le paye la fois suivante en naissant malchanceux, malade et pauvre ? Non, c'est de l'autosuggestion qui ne résout rien.
Les deux tiers de la planète y croient. Les deux tiers de la planète ont faim, ça ne justifie pas la famine.
Cela dit, si vous me posez la question par rapport à votre coma, je serai plus nuancé. Un frisson parcourt mon dos.
Pourquoi ?
Il se penche, remonte un coussin derrière lui, se rappuie.
Je vais vous raconter un cas sur lequel on a sollicité mon avis, encore plus étrange que le vôtre.
Un soir de l'an dernier, une jeune femme des Deux-Sèvres participait à une séance de spiritisme avec des amis, pour s'amuser. Assis autour d'une table, ils faisaient tourner un verre, avec l'illusion qu'une âme défunte répondait à leurs questions. Oui, non, banalité, contradiction. À l'issue de la séance, on rallume les lampes, on éteint la bougie. La jeune femme a l'air bizarre. On lui demande si tout va bien, elle répond en espagnol. Le mari est étonné, il ignorait qu'elle connaissait cette langue. Mais voilà que les questions s'enchaînent et qu'elle répond toujours en espagnol. Personne ne le parle autour d'elle. On la prie d'arrêter cette comédie, rien n'y fait. Comme si elle ne comprenait plus le français. La blague n'est pas drôle, le ton monte, les amis s'en vont, le mari se couche énervé. Le lendemain, au petit déjeuner, il la trouve en train de parler espagnol à ses enfants, tout en les câlinant. Il commence à être franchement inquiet. Il va chercher la concierge et celle-ci lui traduit les propos de sa femme. Elle dit qu'elle s'appelle Rosita Lopez, qu'elle est morte une semaine plus tôt à Barcelone, qu'elle n'avait pas envie de quitter la terre et qu'elle se sent très bien dans cette famille. On appelle le médecin du village, qui diagnostique un dédoublement de la personnalité, et on procède à des vérifications. Une dénommée Rosita Lopez est en effet décédée 8 jours auparavant à Barcelone. Il avale une poignée de cacahuètes. Je l'observe pendant qu'il mâche. Il nous resserre du champagne avant de poursuivre. On la montre à une dizaine de spécialistes, dont moi. Nous constatons le changement de langue, mais sur le plan médical, nous ne décelons aucun symptôme de schizophrénie, aucune ambivalence des pensées, aucun des syndromes qu'on observe habituellement dans les cas de personnalité multiple. La patiente est parfaitement cohérente, bien dans sa peau, son humeur est égale, ses obsessions permanentes, elle adore ses enfants et désire son mari, lequel résiste autant qu'il peut aux ardeurs de cette étrangère qui partage sa vie. Et puis un jour, n'y tenant plus, il s'adresse à un exorciste qui, à force de prières et de mise en demeure, finit par expulser l'esprit squatteur. La jeune femme retrouve alors son identité, redevient telle qu'elle était avant, à une différence près. Elle parle toujours espagnol. L'infestation était si forte qu'elle avait contaminé la zone du langage, dans le lobe gauche. La pauvre a dû réapprendre sa langue maternelle. Je fixe les bulles qui montent dans mon verre. S'il vient de faire un parallèle avec mon histoire, je lui demande de quel côté il me situe, l'infesté ou l'infestant.
« Savez-vous, reprend-il,
que les rats de laboratoire continuent de retrouver leur chemin dans un labyrinthe, même lorsqu'on leur a retiré 90% de leur cerveau. En quoi ça me concerne ? Et que le professeur McDougall de l'université de Harvard a prouvé que d'autres rats n'ayant aucun lien biologique avec ceux qui avaient mémorisé leur chemin dans le labyrinthe arrivaient, des années plus tard, à trouver l'issue avec la même rapidité. Comme si ce labyrinthe contenait le souvenir des expériences passées. La question à laquelle je veux vous amener est celle-ci, Monsieur Harris. Où est stockée la mémoire ? Dans notre cerveau ou à l'extérieur ? Pourquoi, lorsqu'on stimule électriquement à plusieurs reprises un point précis de l'hippocampe, recrée-t-on immédiatement chez le patient un souvenir important, mais jamais le même ? Notre cerveau serait-il moins un entrepôt qu'un émetteur-récepteur ? Je vais plus loin. Comment un cerveau privé d'oxygène, en plein dysfonctionnement dans une phase de coma, pourrait-il engranger et traiter des souvenirs à long terme, comme c'est le cas dans les EMI ? Parce qu'au seuil de la mort, comme probablement lors d'une transe médiumnique, le lobe temporal droit est brusquement activé, connecté malgré lui à une banque de données qui se trouve à l'extérieur du corps. Votre banque de données, ou celle d'une amérante, ou celle de l'homme dont vous désirez la femme. Je pose mon verre, repousse l'assiette qu'il me tend. Et pourquoi vous racontez toujours l'histoire dans le même sens ? Pourquoi ce n'est pas l'autre qui aurait piraté ma banque de données ? Parce que sa femme le reconnaît. Un vieux téléphone grelotte sur une commode. Farge s'arrache au coussin et va répondre d'une voix morne. Son visage s'éclaire aussitôt. « Oui, tout va bien, je vous le passe. Amitié chez vous. » Il dépose sur mes genoux l'antique appareil au bout de son fil qui tire-bouchonne. Muriel s'excuse pour tout à l'heure. Elle venait de charger un client, elle ne pouvait pas me parler. Elle est désolée de ne pas dîner avec nous. Elle me demande où j'en suis. J'explique que Monsanto et consorts ont tout manigancé, j'en suis certain, et j'en aurai la preuve demain. « Arrête cette Nintendo !» crie-t-elle. « J'ai dit au lit, tu as vu l'heure ? Va dire à ta sœur de baisser la musique, je suis au téléphone !» « Vous êtes toujours là, Martin ?» Une tendresse dans sa voix me noue la gorge. Ce n'est pas de la tendresse, d'ailleurs. C'est du désarroi. L'honnêteté de laisser entendre qu'elle se sent seule au milieu de sa marmaille et que... peut-être, je lui manque. Tout se passe bien, sinon ? Daube et Vacherin ? Oui. Un conseil, méfiez-vous du Bourgogne. Allez, bonne soirée. Muriel, quand on se reverra, mon problème sera réglé. Mais je suis content d'une chose. Il m'aura permis de vous connaître. Je m'entends parler faux et pourtant je suis sincère. Elle répond que c'est gentil de dire ça. Pudeur ou politesse. Le médecin tisonne les braises par discrétion. Elle abrège l'échange, m'invite à la prévenir dès que j'ai du neuf, ajoute qu'elle m'embrasse. À nouveau, sa voix sonne creux, comme celle des traductrices à la télévision qui disent « je » d'un ton neutre à la place des autres. Je raccroche avec une émotion bizarre, mélange de regret et de dépit. La tête lourde de tout ce que j'aurais dû dire. C'est une femme qui a beaucoup de courage, énonce le médecin en croyant faire écho à mes pensées. Je fronce le nez, lui signale que ça sent le brûlé. Il lâche son tisonnier, court à la cuisine, pousse un juron, laisse tomber le faitout. Je le rejoins, l'aide à éponger la daube. Tant pis, je vais nous faire une omelette. Ne vous dérangez pas, retournez vous détendre.